Conférence privée par le Père Philippe à Saint-Joseph le 2 décembre 1986.
Encore en pleine position qu'on doit avoir au point de vue de la théologie de l'Église, puisqu'on se trouve devant des théories, pour ne pas dire des théologies, des théories qui ne sont plus du tout celles de l'Église. Et c'est extraordinaire, puisque tous les jeudis, ils ont un enseignement où ils prennent l'Omen Gentium du Concile de Trente, du Concile Vatican II, et ils sont très surpris de voir que les laïcs qui sont là disent: on nous a jamais dit ça, c'est pas Vatican II ça. Revenir aux sources, c'est le demande de Saint-Père, et comprendre que la doctrine de Vatican II, ben, c'est la doctrine de l'Église de toujours, c'est pas du tout une révolution.
Restant dans la vérité, dans cette
recherche de la vérité. Je crois que c'est ça qu'on doit demander dans ce pèlerinage de Lourdes. Et j'y tiens beaucoup. À cause de ça, il n'y a que Marie qui peut maintenir en nous un désir de vérité d'une façon absolue. Il n'y a qu'elle. Si on le demande à la très sainte Vierge, parce qu'elle est Cédès Sapientiae, Marie nous donnera. Le Père de Haut ne cessait de dire ça. Et il avait raison. Et il nous le dira encore bien plus. C'est Marie seule qui peut maintenir en nous cette fidélité à la vérité. C'est pas par nous-mêmes. Même si on est très intelligent, même si on est génial. Les génies, quelquefois, ils se trompent. C'est pas être génial qu'on cherche, c'est la vérité. Et une vérité qui vient d'en haut. Une vérité qui nous dépasse. Et la vérité philosophique est totalement au service de cette vérité-là. Et entièrement au service de cette vérité-là pour contempler davantage. C'est tellement important de comprendre le but, vous voyez, de ce pèlerinage. C'est pas pour rien que c'est à la fête de l'Immaculée Conception que les premiers se sont réunis auprès d'une icône de Marie à l'Hérins. Mais nous ferons tout ça là-bas à Lourdes pour la remercier de cette première étape de la communauté Saint-Jean. C'est une première étape cette année-ci. C'est vrai. Jusqu'ici, on était à l'état embryonnaire. Maintenant, il y a un peu plus, puisque officiellement, l'Église a reçu. Alors, on remet ça à Saint-Jean. Je voudrais tellement que tous, du fond de notre cœur, nous fassions ça avec un désir de nous renouveler dans le sens de notre vocation, c'est-à-dire dans l'amour de la vérité et dans cette soif de vérité, qu'on puisse compter les uns sur les autres dans cette soif de vérité et qu'au nom de cette soif de la vérité et de la contemplation, il y ait une unité très très radicale, très foncière. Qu'on ne soit pas un agrégat d'opinions, mais qui est au-delà de toutes nos opinions, un désir intense de vérité et de contemplation. Marie, par son Immaculée, n'a jamais connu le but, n'a jamais connu l'erreur. Elle n'a jamais connu le péché. Il y a en elle une telle pureté du cœur. Je crois que c'est la seconde chose qu'on doit demander. Perspicacité de l'intelligence, pureté du cœur. Hein. Voyez bien, soyons Johannique et aimons Saint-Jean. Et considérons que Saint-Jean, c'est notre Père. Et on lui demande de nous donner cette perspicacité de l'intelligence, c'est-à-dire cette soif de vérité. Et demandons-lui de nous donner cette pureté du cœur qui donne cette liberté extraordinaire. C'est ceux qui ont un cœur pur qui sont libres. Ne pas avoir un cœur qui soit attaché à des choses secondaires, hein, comme des vieux garçons. Et on vient de vite, vieux garçons. Parce que dès qu'on est attaché à des choses secondaires, on est vieux garçons. Si notre cœur se maintient dans la pureté et dans la limpidité, notre cœur ne se ternit pas. Notre cœur demeure toujours dans ce sursaut cordant, dans cette élévation profonde d'aller toujours plus loin et toujours plus haut. Marie, le mystère de l'Immaculée Conception, c'est cette pureté du cœur extraordinaire. Nous ça qu'on aime d'être auprès d'elle et de lui demander de purifier notre intelligence, notre imagination. Là, elle a beaucoup à faire. Tous les oignons d'Égypte, à laisser tomber. Tout ce qui est séduisant un tout petit peu. Notre sensibilité, toutes nos C'est bon de l'être. Ce qu'il faut, c'est être lucide dans ses passions. Et c'est Marie qui nous donne cette lucidité. Très très bon d'être passionné, parce que si on n'est pas passionné, on ne peut pas se donner au Seigneur. On cale tout le temps. On se tâte le pouls et on est fatigué. Tandis qu'au contraire, si on est passionné, on donne tout. Et on va toujours plus loin. Et vous êtes passionné dans cet amour de la vérité, dans cette soif de vérité, dans ce don de nous-mêmes. Et allez toujours plus loin dans ce don de nous-mêmes. La pureté du cœur, et puis alors la jeunesse, hein, c'est Marie aussi, ça c'est encore la limpidité du cœur de Marie. Vous voyez, c'est extraordinaire quand saint Thomas définit, n'est-ce pas, ce que pour lui représente saint Jean. Je crois que saint Thomas nous dit les grandes pistes de nos recherches vers la sainteté, qu'on doit confier à la Sainte Vierge. Et je crois que là, on peut tous être unanimes. C'est notre manière de tendre vers la sainteté, perspicacité de l'intelligence. Chacun à son niveau. Hein. Je ne cherche pas d'être des craques, parce que ça, c'est pas la perspicacité de l'intelligence. Saint Thomas dit pas, saint Jean était aimé parce qu'il était un craque. Parce qu'il était un génie, pas du tout, perspicacité de l'intelligence. Ce souci d'atteindre la vérité, de ne pas s'arrêter aux opinions. On doit avoir horreur de s'arrêter aux opinions. C'est... Platon et la vérité, je les aime tous les deux, mais la vérité plus encore. Ça, c'est très très beau. Un païen qui dit ça, et nous, on n'oserait pas le dire. On ne le dirait pas. Et on prétend être aristotélicien. Parce que c'est ça l'aristotélisme pratique. Platon et la vérité, je les aime tous les deux, mais la vérité plus encore. C'est extraordinaire ça. Nos amis, nous les aimons. C'est très bien. Mais la vérité plus encore. Et c'est cette vérité, tandis qu'au contraire, si on s'arrête à l'opinion de nos amis, ben, ça va pas. C'est la vérité qu'on cherche. C'est ça la perspicacité de l'intelligence. Fils de lumière, ça demandait à la Vierge Marie de le donner, de le marquer au plus intime de votre cœur. C'est son désir de nous donner cela. C'est son désir de mettre en nous une très grande soif de vérité. Vous savez, je ne sais pas, mais chaque fois que dans la vie apostolique, on est en contact des jeunes d'aujourd'hui. Samedi, dimanche, j'avais 100 jeunes ménages, ils étaient 200. On voit l'avidité de ces jeunes, ça me frappe d'une façon étonnante. Et tous comptent sur la communauté. Enseignement qui soit un enseignement contemplatif, un enseignement de vérité, pas des opinions particulières, mais non, l'enseignement de l'Église, mais un enseignement de l'Église vécu pleinement et totalement, un enseignement de l'Église qu'on puisse transmettre, c'est ça la perspicacité de l'intelligence. Je vous le dis parce que ça me frappe à chaque fois. Et je vois combien il y a un appel plus que jamais. La pureté du cœur, ça c'est beaucoup plus facile à comprendre. Mais c'est pas plus facile, hein. Non, non. Dans un monde comme le nôtre qui est terriblement pollué, et qui est pollué dans tous les sens, où le démon ricane constamment, disant que la pureté c'est impossible. Là aussi on pourra avoir des exemples constants de voir combien c'est difficile d'enseigner la pureté du cœur si soi-même on l'a pas, parce que ça se sent tout de suite ça. Et la recherche de la vérité ça se voit moins, mais la pureté du cœur ça se transforme. c'est l'amour qui purifie. Et la pureté permet à l'amour d'aller jusqu'au bout. C'est une très grande exigence, la pureté. L'esprit de virginité. Hein. Cette très grande pureté du cœur pour que ce soit Jésus seul qui marque notre cœur, qui est une influence sur notre cœur, sur notre côté affectif. Et c'est ça qui nous permettra d'aimer vraiment nos frères. Parce que si on les aime d'une façon passionnelle, alors à ce moment-là, on veut les accaparer. Et si nos frères sont un peu intelligents, ils nous échapperont complètement. Heureusement. S'ils sont un peu intelligents. Parce que dès qu'on veut aimer le Christ et qu'on sent quelqu'un qui veut vous dominer, vous prendre, vous envoûter, on passe à travers tout ça. Et on veut avoir cette liberté des enfants de Dieu, vous voyez. Liberté et pureté du cœur, ça va ensemble. Hein. Cette liberté intérieure. Et ne pas se laisser prendre, dominer. Et puis la jeunesse. La jeunesse, c'est de vouloir progresser. Vouloir garder dans le fond de son cœur, j'allais presque dire, toujours un tout petit peu, vous voyez, de sainte naïveté. Ne pas être des êtres blasés. Au XIIe siècle, on disait que quand il n'y avait plus d'admiration, il n'y avait plus de contemplation. Et ça, c'est très très vrai. Quand il n'y a plus d'admiration, il n'y a plus de contemplation. Et alors l'admiration, c'est justement avoir un cœur qui sait encore admirer. C'est la jeunesse du cœur. La jeunesse du cœur, c'est être capable d'admirer. Découvrir toujours quelque chose de nouveau. Tandis qu'au contraire, quand c'est du déjà vu, vous savez bien, on considère qu'on connaît déjà. Ah oui, je connais. J'ai déjà lu ce passage de l'Écriture. Ah oui, je connais. À partir de ce moment-là, il n'y a plus aucune jeunesse. Il n'y a plus aucun progrès possible. Il n'y a plus d'espérance. Il y a quelque chose de cassé. Notre monde est un monde blasé. Il ne faut pas l'oublier. Hein. C'est un monde blasé, complètement. Il n'a plus aucune jeunesse. Ce qui explique des choses dramatiques de jeunes qui subitement sont dans l'angoisse. On parlait d'une jeune fille de 15 ans qui était dans une terrible angoisse à 15 ans, repliée sur elle-même et ne vivant que dans sa chambre du matin jusqu'au soir. Presque dans le noir, ne voulant plus manger, en disant j'ai un dégoût de la vie, à 15 ans. On voit très bien ce qu'est le monde complètement blasé. Je vous dis ça pour que vous puissiez prier pour elle, parce qu'on m'a demandé de prier pour elle. Et t'as dit qu'on craint le pire. On craint qu'elle se suicide. C'est vite fait à 15 ans. Vous savez bien que quand on est jeune, on meurt très facilement. Dans toutes les guerres, ça se voit, ça. Mais alors, on meurt avec une générosité, un temps de soi-même. Ça, c'est très, très bien. C'est très bien de mourir dans la pleine générosité, le temps de soi. Mais mourir replié sur soi, dans la tristesse, dans le dégoût de la vie, c'est terrible. Et on est tous un peu responsables de ça, parce que ça fait partie du climat dans lequel on est. Et on doit porter ça pour que de fait, notre monde redécouvre la vraie jeunesse du cœur de Jésus. Voyez, préparez-vous à ce pèlerinage. Je le désire très fort, ça, pour toute la communauté, pour toute la congrégation. Encore une fois, ceux qui y vont et ceux qui doivent rester, ça n'a pas d'importance, on peut faire appel. nous avoir révélé d'une façon si profonde le cœur de Marie. Un saint Thomas ne savait pas. Et saint Thomas ne pouvait pas découvrir certaines choses du cœur de Marie qu'on ne peut découvrir que par l'Immaculée Conception. Ah, il l'a su au ciel, c'est évident. Mais sur la terre, dans la foi, il ne recevait pas ce mystère. Il ne connaissait pas. Ah, il affirmait que Marie n'avait jamais péché. Ça, c'est sûr, ça fait partie de la tradition. Mais le mystère de l'Immaculée Conception dans toute sa pureté, il n'osait pas le dire. Tellement certaines paroles de l'Écriture semblent en contradiction avec. Ils ont tous péché en Adam. Ils ont tous été sauvés par Jésus. On voit très bien comment ce mystère reste un mystère caché qui nous est révélé et qu'on doit aimer. Et le Père Kolb dit que la contemplation du mystère de l'Immaculée Conception donne sur toute la théologie une lumière plus profonde. Alors il faut le demander aussi à la Vierge Marie, ça, que le mystère de l'Immaculée Conception nous donne cette lumière plus profonde sur toute la théologie et que toute la théologie soit éclairée de l'intérieur par ce mystère de l'Immaculée Conception. Je reviens au temps de l'Avent. Je voulais tout de suite regarder le pèlerinage de Lourdes. Le temps de l'Avent, c'est un temps de joie. Je sais bien, il y a des ornements violets. Ça, c'était un violet très pâle et très blanc, n'est-ce pas ? Très rose. Un violet qui... C'est pas la peine, c'est pas l'aspect de la pénitence qui domine pendant la... Pendant l'Avent, ce qui domine, c'est la joie de cette jeune maman qui est la mère de toutes les mères. Cette joie de cette jeune mère qui attend son premier-né, son fils, son Dieu. Et ça, je crois qu'on doit vivre très fort de cette joie. Nous en avons tous besoin. Il faut qu'on soit joyeux de l'intérieur, pas une joie exubérante qui se met à crier dès le matin, n'est-ce pas ? Sans qu'on est heureux de vivre, qu'on est dans la joie, qu'on va en battant des mains à la chapelle. Non, c'est pas ça. Mais ayez une joie intérieure pendant ce temps d'Avent. Demandez cette grâce, c'est une grâce de Dieu. On la demande peut-être pas assez. On n'a peut-être pas assez de joie. Vous savez ce que Sainte Catherine de Sienne disait de l'ordre de Saint-Dominique ? Que sa marque particulière, c'était la joie. Il comprend très bien ça. La marque particulière de Saint-Jean, ça devait être la joie. Parce que s'il y avait la perspicacité de l'intelligence, la pureté du cœur et la jeunesse, il ne peut pas être autrement. Il y a nécessairement la joie. La joie, ça fait partie de cette jeunesse. Dès qu'on est petit vieux ou petite vieille, alors à ce moment-là, il n'y a plus de joie. C'est la tristesse. Oh, c'est lourd, c'est dur, c'est pénible. Vous savez, le vieux laboureur, le vieux paysan, cette année-ci, oh, ça a été médiocre pour les pommes de terre, médiocre pour le blé, médiocre pour les betteraves, ouais, médiocre. Alors à ce moment-là, on voit très très bien qu'il n'y a aucune espèce de joie. Les tièdes, je les vomirai. Les tièdes, c'est tout proche des médiocres. Alors on ne doit pas vivre dans ce caractère-là, on doit être dans la plénitude du don. Et c'est ça que réclame la joie. Il n'y a plus de joie de donner que de recevoir. Dans l'ordre surnaturel, il n'y a plus de joie de recevoir que de donner. C'est vrai, dans l'ordre surnaturel, c'est très vrai. Il y a une joie extraordinaire de recevoir. débordante du cœur de Marie. Vous voyez, le Magnificat, ça dit la joie du cœur de Marie. Et le Magnificat, c'est la grande prière de l'avant. C'est la prière constante à laquelle on revient tout le temps. Parce que c'est ça qui donne le climat de l'avant. Il est présent, caché en Marie. Et il nous est donné. Alors vive de cette présence cachée. L'avant de Marie, c'est l'avant de l'Église. Et nous devons vivre de cet avant de l'Église. Vous voyez bien, les évangiles sont nets et assez extraordinaires. La dernière semaine de l'année liturgique, c'est rude. Un coucher de soleil un peu tragique. Et l'avant, ça doit être l'aurore dans toute sa joie, dans toute sa simplicité. C'est une extraordinaire simplicité, l'avant. Dans l'avant, qui est dominé par cette joie, par cette présence. Depuis l'Annonciation, Marie vit cette présence. On porte un secret. Et ce secret, c'est l'amour du Père pour nous. Et c'est l'amour extraordinaire du Père. Marie savait que le Père l'aimait. Et c'était ça la source de sa joie. Et nous savons que le Père nous aime. Et c'est la source de la joie pour nous. Oui, au-delà de toutes les petites au-delà de tous les petits bobos, il y a une joie extraordinaire, c'est que le Père nous aime. Et il faut qu'il y ait cette joie. Vous voyez, on doit conquérir cette joie. Il ne faut pas dire, oh, je l'attends. Que voulez-vous, j'ai un tempérament un peu lymphatique. J'ai un tempérament plutôt sombre. J'ai un tempérament qui est comme ça, je vois tout en tristesse. Alors, c'est pas étonnant, ça arrive très rarement aux choses dans la joie. Jour de Noël, peut-être. Eh bien, c'est faux, ça. C'est pas être chrétien, ça. Ça se conquiert, la joie. C'est une propriété de l'amour. C'est le rayonnement de l'amour. Et donc, ça se conquiert. Être victorieux dans l'amour divin, c'est nécessairement être joyeux. Ça peut pas être autrement. Auprès de l'Esprit Saint, ce qu'est la joie, fruit de l'Esprit Saint, fruit de l'Esprit de Dieu en nous. Et comprendre qu'on doit écarter tous les obstacles. Ça, on peut. Écarter tous les obstacles qui viennent limiter notre joie. Et le grand obstacle qui vient limiter notre joie, on le sait très bien, c'est qu'on se regarde trop. Si on se regardait moins, grosse pierre qui arrête la joie disparaîtrait. C'est vrai, quand vous vous regardez vous-même, c'est pas très drôle. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord. On n'a qu'à pas se regarder, quoi, pour que ce soit la joie qui prenne possession de nous. On a tellement mieux que de se regarder. On a le don que le Père nous fait de son Fils. À travers Marie, en Marie, Marie nous est totalement donnée. Et donc la petite Vierge Marie qui attend son tout petit enfant, elle nous est donnée. Mais c'est merveilleux, ça. De savoir qu'elle nous est donnée. Elle nous est donnée dans sa joie. Pour être cause de notre joie. C'est elle qui est cause de notre joie. Si Marie était plus présente dans notre vie, mais il n'y aurait bien plus de joie. Parce que plus elle est présente, plus elle nous donne cette joie profonde, ce rayonnement. Ce rayonnement de vie, d'intelligence et d'amour. Il faut de l'intelligence pour la joie. Perspicacité de l'intelligence au service de l'amour. Alors, des joyeux, puisqu'il s'agit de découvrir que le Père actuellement nous aime et qu'il nous enveloppe de son amour et nous donne son trésor. La grande joie de Marie pendant ce temps de l'Avent. Alors, voyez les grands épisodes de l'Avent. L'Annonciation, oui, le silence de Marie, joyeux. Le dépassement dans ce silence et dans cette contemplation à l'égard de son lien avec Joseph. Marie qui en toute hâte va auprès d'Élisabeth. L'exercice de la charité fraternelle. Ah oui, l'exercice de la charité fraternelle pendant l'Avent, ça fait partie de la joie. C'est une manière de se donner. On reçoit le don du Père et on se donne. Alors à ce moment-là, il y a la double joie. La joie de recevoir et la joie de donner. Et c'est vrai que dans la charité fraternelle, la grande joie, c'est de se donner. Oui, si on se donnait plus, on aurait bien plus de joie. On peut y aller. On peut y aller très, très, très fortement. Des tas de petites choses qui permettent de nous donner. Le simple fait d'être attentif à son voisin, de ne pas avoir une tête trop pénible pour lui, avoir une tête un peu plus joyeuse. Se donner dans les petits services, les tout petits services, de rien du tout. Ne plus avoir de temps à soi et que tout soit brûlé pour Jésus. Alors ça, c'est la joie parfaite. C'est la joie parfaite. La charité fraternelle, en toute hâte, auprès d'Élisabeth, le Magnificat. Ah, la prière qui surgit de l'avant. Elle doit être joyeuse. Il faut qu'il y ait un élan nouveau au cœur. Ça, je crois, la prière de l'avant doit être joyeuse. Surtout, alors, une prière de l'avant, vous voyez, qui est une pluie, qui dégringole, ça ne va pas du tout. Que ce soit la rosée, oui, la rosée du Saint-Esprit, alors, qui fait quelque chose de merveilleux. Mais ça, il ne faut pas que la prière liturgique pendant l'avant soit triste. Elle doit être joyeuse. Alors, elle est joyeuse si, au fond de notre cœur, pour chacun d'entre nous, elle est joyeuse. Parce qu'on est heureux de se retrouver ensemble auprès de Marie, qui porte tout petit enfant Jésus. Et on est heureux d'être auprès d'elle. Et on lui demande d'être là. Et on vit auprès d'elle. C'est vrai, c'est ce qu'il faut durant la prière liturgique de l'Avent, c'est de vivre auprès de la Très Sainte Vierge. Son mystère, elle porte l'enfant Jésus pour nous. Et elle est là avec nous. Prière liturgique joyeuse du Magnificat. La redécouverte de Joseph, ça fait partie de la joie d'avant. La redécouverte de Joseph. Puisque l'ange, c'est durant l'avant que l'ange dit à Joseph de ne pas avoir peur de prendre Marie alors qu'il était tout inquiet. L'avant, c'est le moment des éclosions merveilleuses que Dieu fait dans notre cœur pour découvrir dans la charité fraternelle tous les liens profonds que Jésus fait. Et s'il y a des liens profonds qui ont été un tout petit peu abîmés, il faut que pendant le temps de l'Avent, on les redécouvre dans la lumière de l'Esprit Saint. Ça, c'est important. La redécouverte de Joseph. Quelle joie pour Marie. Quelle joie pour Joseph. Quelle joie pour l'enfant Jésus. Et ce travail joyeux de l'Avent, simple. Et puis il y a aussi, durant l'Avent, l'édit de César. L'édit de César, voyez ce que c'est. Il y a quelquefois des édits de César dans nos vies communes. L'édit de César, oh maman, on voudra avoir un petit peu de calme, un peu de paix. Enfin, j'ai une après-midi auquel je peux travailler. Puis pif, l'édit de César. Le recensement, quittez Nazareth, allez vers Bethléem. Au moment où ça convient le moins, l'édit de César. Alors à ce moment-là, on n'a qu'un seul désir, c'est dire, l'édit de César, ça ne me regarde pas. Ça regarde mon voisin, oui, c'est pour lui, c'est sûr. C'est pas pour moi. c'est impossible, c'est impossible. Alors, donnez-nous un certificat médical comme quoi elle peut pas. C'est sûr, les 10 César, ça la regarde pas. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Constamment.
Marie et Joseph connaissent une plus grande intimité durant ce temps.